Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler du Bois du Fouillé. Souvenez-vous, en 2022-2023, un collectif se lève contre l'abattage d'un bois entre Le Mans et Ruaudin pour y construire 500 logements. Un bois qui sert de terrain de jeu à des riverains, mais surtout de lieu de vie à des animaux, des plantes, des champignons, des insectes. En clair, tout le reste du vivant. Pour les humains, c'est aussi une barrière contre le bruit de la rocade sud et un lieu de fraîcheur quand la température s'affole. De nombreuses actions ont eu lieu pour défendre le bois. Des manifestations diverses et variées. L'enfumage municipal et communautaire qui était présent lors des réunions de présentation du projet, qu'il était tellement super bien que normalement tout le monde aurait dû acquiescer, eh bien cet enfumage municipal et communautaire n'a pas pris. Et c'est donc officiel depuis le 30 mai. Il n'y a plus de projet de destruction du bois. Pour l'instant, on aurait pu vous parler des chronolignes et de l'abattage de plus de 400 arbres pour les construire. Ces chronolignes, bah oui, pour gagner du temps, que ne ferait-on pas ? Les coin-coins que vous entendez au loin, c'est le bruit que faisait le collectif de défense des arbres de l'avenue Bollée, qui s'est réuni une nouvelle fois samedi 25 mai pour protester contre la disparition annoncée de 200 arbres avenue Bollée au Mans et plus de 200 autres sur les autres chronolignes. Ces arbres doivent être abattus dans le cadre du projet chronoligne porté par Le Mans Métropole. Ça se passait donc le 25 mai sur l'avenue Bollée, une manifestation d'une soixantaine de personnes qui a rappelé que couper des érables, c'est minable. Ouais, c'était l'un des slogans sur les pancartes. Ce collectif réclame l'étude de projets alternatifs qui permettraient de conserver les arbres. Et jeudi 30 mai, une délégation du même collectif contre l'abattage des arbres sur le trajet des chronolignes s'est invitée au conseil municipal et communautaire pour interpeller une nouvelle fois le maire. Sur la légende, il est noté que le maire a été pris à partie. Oh là, il y a une connotation dans la presse locale. Voilà, il y a une connotation. Ça sent de plus en plus le Bois du Fouillé quand même, cette histoire de chronolignes. Alors bah, peut-être qu'il serait temps de se dire « j'avais tort, je vais voir si on peut faire autrement, etc. » Ce qu'ont des difficultés à faire l'ensemble de notre personnel politique qui est normalement au pouvoir pour la population, mais qui est surtout au pouvoir pour sa carrière. Hein, ouais, une grande partie d'entre eux ils en ont fait leur métier. Collectif tirer arbre tirer bolé. Collectif au singulier tirer celui du 6, arbre au pluriel tirer bolé. @anche.no si vous voulez contacter le collectif pour les arbres de bolé.
J'arrête. C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le H.
À bon entendeur, salut, H comme humilité. Il est important de connaître nos points forts et nos points faibles. L'humilité, c'est reconnaître que l'on n'est pas parfait. On peut toujours s'améliorer et un coup de main est toujours utile. C'est important de reconnaître les qualités des autres, d'admettre nos erreurs et d'apprendre d'elles. Nos soi-disant représentants, allez au turbin maintenant. Il va falloir déconstruire pour certains 50, 60 ans d'absence d'humilité. On aurait pu vous parler de la guerre à Gaza et de ses répercussions en France. Depuis le début de l'offensive sur la ville de Rafah par l'armée israélienne, des manifestations ont lieu dans toute la France. Au Mans, ça avait lieu lundi 27, à Nantes lundi et jeudi, à Paris tous les jours. Bien sûr, la Brave et les autres unités policières sont en roue libre comme d'habitude quand les manifestants n'arborent pas de croix celtique et des tabassages en règle ont lieu sur des gens qui s'en vont, qui tournent le dos, qui parfois ne font même pas partie des cortèges. L'important, hein, c'est de faire peur. Mais ces manifs non autorisés, spontanés, sont l'occasion de montrer que toutes les forces de répression du monde, la propagande la plus crasse diffusée à longueur de journée, ne peuvent pas réduire à néant une idée. Et qu'à la moindre occasion, celle-ci rejaillit et s'affiche dans le seul lieu d'expression populaire, la rue. Cette fois-ci, c'est la défense des habitants de Gaza contre la machine de guerre israélienne. Depuis les attentats du Hamas du 7 octobre, on a pu entendre et lire des tombereaux d'infamie sur les Gazaouis, qui seraient tous terroristes. Et on a pu entendre et lire des tonnes de justifications génocidaires, même par nos soi-disant représentants, notamment M. Habib des Républicains. Il est fantastique sur le sujet. Depuis le 7 octobre, des groupes de pression, des individus toujours bienvenus sur les plateaux télé, au micro des radios et dans les colonnes de la presse écrite, ont déversé des litanies de mauvaise foi pour amalgamer la critique du gouvernement israélien d'extrême droite. Et d'extrême droite religieuse en plus. Et pour amalgamer avec ça l'antisionisme, qui est une critique du nationalisme et de l'expansionnisme qui serait lié simplement à la judéité, mais pas seulement, puisqu'il y avait aussi, il y a aussi des sionistes qui sont athées, et l'antisémitisme, la haine du juif. Vous mélangez tout ça et vous faites comme si c'était exactement la même chose, avec en plus une instrumentalisation de la justice. Et pourtant, malgré ce tsunami de propos fallacieux, il se trouve encore des dizaines de milliers de personnes à travers toute la France pour sortir dans les rues et dire leur attachement à l'humanité, au point de se mettre en danger, en particulier quand les policiers harnachés comme pour aller à la guerre sont de sortie. Et c'est pour ça, en fait, que les régimes autoritaires s'écroulent toujours. Parce que vous avez beau matraquer, à un moment, la population finit par vous faire s'écrouler. Samedi 1er juin à 14h, place de la République, nouveau rassemblement en soutien aux habitants de la Palestine. Eh oui, nouveau. Ça a lieu depuis début octobre. On aurait pu vous parler également de la manifestation contre le choc des savoirs qui a eu lieu samedi 25 mai à 10h au Mans. Environ 300 personnes, des parents d'élèves, des personnels de l'éducation notamment, étaient rassemblés place de la République pour dénoncer le projet gouvernemental de groupe de niveau. Ils appellent ça des groupes de besoin. Ils se sont aperçus que groupe de niveau, ça la foutait mal quand même. Des groupes de niveau, hein, les bien, les moins bien, les encore moins bien. Des groupes de niveau en maths et en français pour les 6e et les 5e à la rentrée 2024. Le choc de savoir a d'autres conséquences que le tri des élèves en fonction de leurs compétences acquises à l'instant T. Un représentant de la FSU brossa ce samedi 25 mai le tableau noir de cette énième réforme. On l'écoute, ça dure 2 minutes et quelques.
Donc à partir de la rentrée prochaine, il va y avoir une confiscation de la liberté pédagogique des enseignantes et des enseignants. Pour donner une image très claire, aujourd'hui vos enfants, ils sont dans des écoles où on fait de l'artisanat, dans des collèges, des lycées, où en fait, chaque enfant est une œuvre d'art, je le dis sérieusement, et en fait, les enseignants façonnent les élèves, voyez, avec mesure, avec prudence, et la liberté pédagogique, elle permet de s'ajuster à chacune et chacun de nos élèves. Eh bien, le choc des savoirs, je vais employer un terme technique, je vais vous l'imager après. Le choc des savoirs, il va nous prolétariser, nous les enseignants. Il va nous faire passer d'artisanes et d'artisans à ouvriers et ouvrières. Attention, j'ai rien contre les ouvriers et les ouvrières, personne ici n'a rien contre eux. Par contre, le processus de l'usine, lui, nous pose problème. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas engloutir des portières à la rentrée. On va s'occuper de nos élèves. Et le choc des savoirs, en nous confisquant la liberté pédagogique, il va nous imposer des pratiques. Et ça, c'est pas possible. Les élèves, c'est pas tous des Peugeot ou des Renault. Il y a tous les modèles, il y a une infinité de modèles, et on doit toujours s'adapter. Le choc des savoirs, ça va être aussi des évaluations imposées à tous les niveaux. Des évaluations complètement ahurissantes, qui sont des tests psychotechniques, où on évalue les élèves sur des choses qu'ils n'ont pas encore apprises. Donc voilà, il y a des choses très très importantes qui vont se passer. Les groupes de niveau, c'est un symbole, mais ça n'est pas la seule chose qui est dans le choc des savoirs. Il y aura aussi un contrôle, et ça, une historienne qui était au Mans mercredi nous l'a rappelé. Il va y avoir un contrôle éditorial des manuels. Est-ce que vous savez quel est le dernier gouvernement qui a fait du contrôle éditorial des manuels à l'éducation nationale ? Attention, vous allez tous et toutes vous prendre un point Godwin. Eh ben oui, c'est Vichy. Voilà. Donc, voilà, ce gouvernement assume de remettre en place un contrôle éditorial des manuels comme l'a fait Philippe Pétain. Bon, ben voilà, on est en démocratie, tout va bien. Et ces gens-là ne supportent pas la liberté pédagogique et le fait que les enseignants soient autonomes. Peut-être une autre image. Quand vous allez chez le médecin, c'est pas le ministre de la Santé qui dit au médecin comment vous traitez, comment vous opérez. Eh bien, l'éducation nationale aujourd'hui, il y a un ministre ou une ministre qui s'arroge le droit de définir les pratiques de tous les enseignants et les enseignantes. Imaginez à quel point c'est centralisé, c'est vertical, c'est bureaucratique. Donc c'est l'inverse de ce dont on a besoin de faire dans nos classes, de s'ajuster à toutes et tous nos élèves.
Contre le choc des savoirs, la suite, eh ben, ce sont des opérations collège mort, où il est demandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants au collège, hein, notamment. Cette semaine, au Mans, ça a eu lieu à la Madeleine, quartier de la Madeleine. La semaine prochaine, jeudi 6 juin, entre autres, une opération de ce type a lieu au collège Jean de Lépine, quartier de Lépine. Renseignez-vous auprès de vos bambins et des associations de parents d'élèves, plus la FCPE que la PEP. Pourquoi ? Bah, parce que la PEP et le privé, c'est une grande histoire d'amour. La FCPE et le privé, un peu moins. Donc le privé, lui, les écoles privées auront toute latitude pour ne pas appliquer le choc des savoirs. C'est fantastique quand même. Eh ben oui, les copains qui aident les copains. C'est la cruelle réalité de ce que nous vivons actuellement. Des copains qui aident des copains. Et en l'occurrence, eh ben, ceux qui sont allés dans les écoles privées aident les écoles privées. Alors, ce serait lié à un réseau qui s'appelle Atlas. Pas de complotisme derrière tout ça. On s'en reparle assez rapidement. On aurait pu vous parler aussi de la guerre faite aux pauvres, puisque là, les conditions pour les personnes qui sont au chômage pour toucher des indemnités chômage, alors que déjà, à peu près 55% seulement de ceux qui sont au chômage touchent des indemnités, eh bien, pour toucher ces indemnités, les conditions seront de plus en plus compliquées. C'est ce qu'a décidé le gouvernement à partir du 1er décembre. Là encore, la guerre aux pauvres qui continue. Mais finalement, on a préféré vous parler de un certain Georges Blondeau, dit GB. Triste anniversaire que celui de la mort de GB en 2004 et en 2022, en 2022, nous avions consacré deux émissions à ce dessinateur aux idées radicales qui avait aussi commis des romans. On s'est dit que c'était l'occasion d'en reparler. Georges Blondeau, il est né en 1929 dans la région parisienne, fils unique d'une famille modeste, comme on dit. Il loupe le bac et devient dessinateur industriel pour la SNCF. Il est aussi dessinateur tout court, pas que industriel, et commence à diffuser ses dessins dans La Vie du Rail et d'autres journaux avant d'intégrer l'équipe de Harakiri en 1960. Il suit la bande à Choron et Cavana dans l'aventure Charlie Hebdo dans les années 70-80 et devient même directeur de publication du Charlie Hebdo Nouvelle Mouture dans les années 90 avant la mainmise par Val. Il écrit des chansons, il écrit des sketchs pour Merci Bernard et Palace par exemple. Il écrit des romans et bien sûr, il dessine. La poésie et une certaine mélancolie de l'enfance se retrouvent dans de nombreuses planches, comme par exemple celle intitulée « Le bobsleigh de nuit » que je vous laisse découvrir, c'est magnifique. Mais la plupart des productions de GB sont aussi critiques de la société. GB pense même des utopies comme « L'an 01 ». Une dizaine de planches paraissent dans... paraît d'ailleurs, puisque c'est une dizaine de planches paraît dans Politique Hebdo, un hebdomadaire de gauche édité entre 1970 et 1978, qui aura une seconde vie éphémère en 1981. Ça paraît en dernière page. Durant une dizaine de semaines, à partir de septembre 1970, on avait des nouvelles de l'an 01. Politique Hebdo et GB vous donnent des nouvelles de l'an 01. Vous pourriez vivre en l'an 01, voit-on sur la planche. Si vous vouliez, alors vous connaîtriez par cœur le texte ci-dessous et les scènes ci-contre seraient des croquis de votre vie quotidienne. Et par exemple, la résolution 1. La résolution 1, qui est donc, je lis, sur la planche, on lit. Aspiration collective prenant effet de résolution à partir du 1er de l'an 01 et applicable par accord tacite et collaboration libre de toutes les personnes vivantes ce jour et après. Résolution 1, on arrête tout. Suivent d'autres résolutions, d'autres planches, et quand la série s'arrête justement dans Politique Hebdo, après une dizaine de pages, eh bien GB nous explique la suite de l'histoire lors d'une rencontre à Montreuil en novembre 2001 à l'occasion de la diffusion dans un cinéma du film L'an 01, parce qu'après avoir été de la BD, ça deviendra un film.
L'idée elle-même et puis une dizaine de planches ont commencé à paraître, ont été publiées par Politique Hebdo de l'époque, 70 par là. Et ça a déclenché un intérêt et une demande. Les gens ont dit, mais on voudrait connaître la suite, on voudrait que ça s'étoffe. Donc je l'ai continué en feuilletant dans Charlie Hebdo. C'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est qu'il y a eu la même ferveur lorsque le film est sorti, les salles étaient pleines. Les salles qui nous ont accueillis. Et par exemple, le film ayant beaucoup de succès dans les salles qui appartenaient à des distributeurs indépendants qui avaient mis un petit peu d'argent pour faire le film, des distributeurs se sont dit « bon, c'est le bon coup, on va le sortir dans des grandes salles sur les Champs-Élysées ». Avec Doyon, on a refusé de sortir sur les Champs-Élysées. C'était pas notre truc, c'était pas l'an 01, c'était les salles des Champs-Élysées, elles n'avaient plus qu'à fermer après le film.
Donc, après la parution dans Politique Hebdo, c'est dans Charlie que ça continue. Et voilà qu'avec Jacques Doyon, Alain Resnais et Jean Rouche, GB fait un film de l'an 01 qui est diffusé en 1973. Le film reprend les idées de la BD. On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Premièrement, il faudrait faire un pas de côté. Tiens, ben, extrait du film.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose, si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais. Si on faisait un pas de côté, les queues ne tomberaient plus en face des guichets.
Qu'est-ce qui se passe ?
Si on faisait un pas de côté, les fusils ne tomberaient plus en face des soldats. Si on faisait un pas de côté, les coups de pied n'arriveraient plus au cul. Si on faisait un pas de côté, au lieu de sonner chez soi, on sonnerait chez le voisin. Et si on échangeait nos papiers d'identité ? Et si on arrêtait tout ?
Et voilà un pas de côté pour un changement de point de vue. La tête dans le guidon en permanence nous amène à ne plus chercher à savoir si nos actions au quotidien sont sensées. Cette perte de sens, d'ailleurs, était déjà conscientisée dans les années 70. Souvenons-nous quand même de l'effervescence intellectuelle autour de mai 68. Extrait d'une interview de GB pour le journal télévisé de la première chaîne, qui n'appartient pas encore à l'oligarque français Bouygues, à l'occasion de la sortie du film L'An 01 en 1973.
Il suffit d'ouvrir un journal ou la télé pour s'apercevoir que la course au progrès nous mène tout simplement à la catastrophe. On est en train de détruire la terre, l'environnement, et ça ne mérite plus qu'on s'y dévoue et qu'on y sacrifie nos vies. Et ça, c'est vraiment dans l'air, mais c'est pas nettement formulé. Nous, on a fait un film pour le formuler nettement.
GB, là, nous parle de quelque chose qui est vraiment dans l'air, mais qui n'est pas formulé clairement. Eh bien, il revient sur cette époque, les années 70, lors de la soirée de présentation du film en 2001, à Montreuil.
J'ai l'impression que le film a été fait par les gens qui ne se contentaient pas de la vie qu'ils avaient à l'époque. Ce film s'est fait, et on leur a montré, ils ont dit « oui, c'est vraiment ça qu'on veut voir, et c'est ça qu'on aimerait vivre, en fin de compte. » Et il s'en est fallu peu qu'on le vive, d'ailleurs, parce que c'est ça qui paraît inimaginable. Je veux dire, le film peut paraître intéressant, drôle. Maintenant, être comment le témoin d'une époque, mais ce qu'on a du mal à dire, à comprendre, si on l'a pas vécu, c'est que ça paraissait pas une utopie. Pour les gens qui le voyaient, ils se disaient que c'était partie remise, mais que dans quelques temps, ça allait se faire vraiment. Peut-être pas sous cette forme-là, mais que tout au moins, il allait y avoir un bouleversement majeur, quoi. Une grande rupture. Et donc, il y avait cette aspiration de vivre autre chose ensemble que ce qu'on nous condamnait à vivre, quoi. On disait adieu à plein de choses. On était prêts à vivre autrement. Les gens des banques disaient c'est une rigolade de travailler dans les banques. Bon, c'est fini, ça va. C'est des choses dont on n'a plus besoin. Ça va s'étioler et on fera autre chose. Il y avait un rêve collectif fantastique. À l'époque, c'était quand même extraordinaire. Il y avait des grands industriels qui se réunissaient. C'était le Club de Rome. Des gens qui étaient responsables des grandes industries multinationales qui se réunissaient en disant « mais où nous mène une croissance exponentielle au désastre ?» Et ils militaient pour la croissance zéro, avec des choix de production. C'est inimaginable maintenant, alors que n'importe quel industriel veut produire de plus en plus et jeter de plus en plus de ses merdes sur le marché et les vendre ailleurs et surtout investir le Japon et en vendre en Corée, etc. Et à l'époque, il y avait une réflexion sur le temps de travail. Il y avait des bouquins faits par des universitaires qui disaient 2 heures par jour. Et c'était un début. Et ils prouvaient que c'était possible. Que pour satisfaire nos besoins, même assez largement, et continuer d'inventer, de faire de la recherche, 2 heures de travail par jour, c'était largement suffisant.
Largement. Dans cet extrait, GB parle du rapport Meadows, le rapport du Club de Rome, traduit en français sous le titre « Halte à la croissance », on se souvient pas, mais parce que justement, il y a des mémoires qu'on ne veut pas avoir. On ne se souvient pas des débats dus à la lettre de Sico Mansholt, qui est un politicien néerlandais, membre du Parti travailliste, et alors commissaire européen à l'agriculture. Et dans sa lettre, il soutient l'idée du rapport Meadows du zéro croissance, et qui devient, lui, Sico Mansholt, président de la Commission européenne de mars 72 à janvier 73. Donc on a pu le voir dans des colloques, on a pu le voir à la télé, on a pu voir des gens encravatés en train de dire « bah ouais, faut arrêter les conneries ». Faut déjà arrêter les conneries. On est au début des années 1970. Les idées défendues dans l'an 01 parcouraient la société. GB en donne une forme concrète. Tout d'abord, eh ben, on arrête tout. Et dans le film, ça se passe un mardi à 15h. D'ailleurs, les autorités décident de réagir à 14h40 le fameux mardi.
Au cours de la conférence de presse qu'il a tenue ce matin, monsieur le ministre de l'Intérieur s'est adressé solennellement aux Français. Je vous adjure, a-t-il dit, de renoncer à toute action de caractère irréfléchi qui ne pourrait que précipiter le pays dans le chaos et le conduire à sa ruine. Français, Françaises, ce n'est qu'un vertige. Ressaisissez-vous. Fin de citation. Dans de très nombreux pays, des proclamations analogues ont été lancées. En ce qui nous concerne, nous tenons à préciser qu'à partir de 15h, aucune déclaration émanant des milieux provisoirement officiels ne sera plus diffusée sur nos antennes. Ce qui revient à dire que vous n'entendrez plus jamais ni un ministre, ni un président, ni un directeur de quoi que ce soit. Plus que 20 minutes.
Bon, on s'en pensera de ces gars-là, hein. Ben, c'est les malfrats.
Ouais, ben bon.
Bon, ben voilà, c'était clair. Alors, le message était écouté par des routiers dans une cabine de camion. Et à un moment, bah, ils se le disent, hein, qu'on s'en passera. Bah, et forcément qu'on peut s'en passer, parce que bah, on n'a pas besoin de gens pour nous dire comment faire fonctionner une société, puisque ce sont les gens qui la font fonctionner, cette société. Et justement, donc, suivent plusieurs résolutions dans la première planche dont je vous ai parlé tout à l'heure de chez Politique Hebdo, pour les nouvelles de l'an 01. Après le « on arrête tout », eh bien, il y a la résolution 2. Après un temps d'arrêt total, ne seront ranimés avec réticence que les services et les productions dont le manque se révélera intolérable. Probablement l'eau pour boire, l'électricité pour lire le soir, la TSF pour dire ce n'est pas la fin du monde, c'est l'an 01, et maintenant une page de Mécanique Céleste. Bon voilà, ça c'était le genre de message qu'on pourrait entendre sur la radio, un TSF, télégraphie sans fil. La résolution 3, les individus ne consentant plus à déléguer leur pouvoir, toutes les formes d'autorité, ainsi que les hiérarchies de toute nature perdront leur emprise avec leur raison d'être, très naturellement et sans douleur. Résolution 4, le temps d'arrêt sera mis à profit par tous pour acquérir la somme des connaissances recensées au premier de l'an 01, somme considérée comme indispensable pour pouvoir décider de la suite et du cours à donner en toute logique aux actions collectives futures. Résolution 5, parallèlement à l'ingestion de l'acquis, la réflexion créatrice s'efforcera de définir des objectifs cohérents susceptibles de justifier la remise en route du bazar. Le bazar étant les usines, les laboratoires, etc. Avec abandon pur et simple des activités néfastes et non reconvertibles, comme l'armement, sans doute. Et résolution 6, pendant toute la durée du temps d'arrêt, 5 ans, point d'interrogation, 20 ans, point d'interrogation, le bazar sera soigneusement maintenu en état de marche. Et dans une des cases, eh bien, les personnages sont en train de graisser des machines. Et il y en a un qui dit, et vous croyez qu'à l'Élysée, ils graissent Pompidou pour pas qu'il rouille? Eh oui, ça sera l'occasion de se marrer un petit peu. Le bazar en état de marche, l'idée n'est surtout pas de casser pour tout refaire, mais bien de profiter d'un temps pour réfléchir et enfin décider collectivement de l'utilisation des biens et services. Dans un roman intitulé « Sept cartouches », paru chez Hachette en 1982, GB décrit une autre utopie, en l'occurrence le Losange, avec un Z, un territoire arraché à 5 États par des populations qui en ont marre de la société comme elle marche, et surtout comme elle ne marche pas. Voilà un extrait du discours d'ouverture prononcé par le délégué numéro 1 de la Fédération, les gens qui se sont mis ensemble pour essayer justement de ne plus vivre de la manière dont on veut nous faire vivre, à savoir gagner sa vie, et perdre sa vie justement à la gagner. C'est donc le délégué numéro 1 de la Fédération qui fait un discours lors de la première des 1000 séances de négociation au terme duquel naquit le Losange. Je cite. Nous sommes ici pour convenir des modalités de reconnaissance par vos 5 gouvernements d'une fédération d'individus souverains et de la donation en toute propriété à cette fédération d'un territoire autonome. Sur le territoire s'installeront les individus fédérés actuellement répartis dans vos 5 nations et dépendant d'elles, citoyens dont les aspirations ne s'accommodent plus des objectifs puérils assignés à l'homme par vos sociétés. Ces objectifs puérils visent à l'élévation d'un produit national brut par l'écoulement marchand d'une production pléthorique, anarchique et forcenée dans des structures économiques nationales toujours plus contraignantes et dans un contexte international où les lois de la concurrence imposent le recours grandissant à l'intimidation, à la menace, à l'hypocrisie diplomatique, à l'exploitation des plus faibles, à la terreur en équilibre ou non, eh oui, le fameux équilibre de la terreur, et à la guerre. Votre clientèle primaire est maintenue telle par vos méthodes éducatives et informatives, s'accommode de ses buts primaires et en accepte les contreparties néfastes et mortelles. Mais nous, individualistes fédérés, nous, insurgés de l'esprit à la perception élargie aux dimensions de l'univers et de la durée intemporelle, nous déclarons que cela n'est plus supportable pour nous. C'est pourquoi nous revendiquons d'une part notre indépendance, d'autre part un territoire sur lequel nous puissions nous consacrer sans restriction à la mise en valeur d'une richesse spécifique dédaignée par vos systèmes, c'est-à-dire l'intelligence. Une suffisance matérielle assurée par une exploitation sans profit monétaire des ressources naturelles à l'aide d'une technologie non asservie par la rentabilité nous permettra de créer les conditions favorables à l'exercice de la connaissance. Permettra de créer les conditions favorables à la pratique de l'extravagance poétique génératrice d'espace favorable à l'épanouissement et aux fulgurances de l'imagination. Favorable, comme on le dit, des vents, au grand départ pour la découverte des nouveaux continents de l'esprit. Nous savons que vous taxez nos revendications de folie, d'utopie, d'idéalisme décadent. Vous savez déjà que vous devrez passer traité avec cette folie, cette utopie, cet idéalisme décadent. Nous sommes ici par la volonté de nos neurones, nous n'en sortirons qu'avec vos signatures. Voilà donc l'extrait du discours dans cette cartouche de ceux qui ont décidé de se fédérer. En l'occurrence, ils ont décidé là encore de tout arrêter puisque les buts puérils des sociétés, en l'occurrence l'augmentation du produit national brut, ouais, le produit intérieur brut, c'est un peu la même, eh bien leur paraissent totalement insupportables. Et donc, le roman se poursuit comme suit. Les représentants des 5 nations, contrairement à la presse de l'époque, passionnés, déchaînés et déchirés, refusèrent obstinément le débat d'idées. Avec une détermination hargneuse, boudeuse et rancunière, ils circonscrirent la négociation sur le terrain strictement juridique et politique. Tout au long des discussions fleuves, ils regardèrent les délégués de la fédération comme des anarcho-libertaires zinzin, dont seule la force du nombre était à considérer et obligés aux accommodements extrêmes. En se résignant à amputer leur patrie d'un morceau de territoire, ils n'agirent pas autrement que les chirurgiens mettant en œuvre les ultimes ressources de leur art pour stopper la gangrène, le couteau et la scie. Les 5 morceaux d'origine composant les nouveaux états du losange étaient constitués de massifs montagneux, boisés, de pâturages, bien arrosés par des rivières de modeste débit mais nombreuses, des villages disséminés, de bourgs reliés par des routes étroites, de peu de villes et toutes de médiocre importance. Les populations autochtones de très faible densité, bien informées par la fédération, restèrent parmi leurs troupeaux, leur culture, leur artisanat, leur commerce, avec leur occupation, leurs affaires, dans leurs maisons. Sur cette base infrastructure, le losange bâtit ses villes avec prudence et élégance, fouilla précautionneusement le sous-sol, faufila son industrie et ses voies de communication avec astuce et mesure, jeta son réseau quasi invisible de liaison entre tous les citoyens pour faire circuler le sang électronique de la démocratie directe. Le losange privilégia l'instruction permanente pour tous les âges, faisant de chaque entrée d'école le portique de la prise de conscience et la prise de conscience le préalable de tout. Des citoyens fédérés qui veulent cultiver l'intelligence, comment ça va se dérouler? Eh ben, on verra ça la prochaine fois. Ah, l'intelligence, oui, ça nous changerait un tout petit peu. C'est différent du carriérisme, pour ceux qui se poseraient la question. Bon, il est déjà presque super tard, alors du coup, on vous dit quand même que il se passe des choses la semaine prochaine et que si vous voulez vous tenir au courant, il existe un agenda militant, culturel, etc., qui s'appelle sart.demosphère.net. Sart.demosphère.net, où vous apprendrez que les soulèvements de la Terre se réunissent la semaine prochaine qu'il y a des formations également pour les street medics, mais ça a lieu dans l'est de la France, qu'il se passe des choses à la Flèche et compagnie. Eh ben, en attendant de se revoir incessamment sous peu, moi je vous dis tout simplement, allez, au revoir.